Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Africa Midi. Dans l'émission Savoir et comprendre, nous sommes samedi 27 janvier 2024 et il est 21h passées de 6 minutes du côté de Lyon, c'est en France. C'est un plaisir, c'est la reprise des émissions après plusieurs mois de stop. C'est encore une fois un plaisir. Nous sommes actuellement en direct sur africamidi.com. On est également en direct sur Facebook, sur la page Facebook Africa Midi, du côté de Facebook. Et je rappelle également que prochainement, les rediffusions, les podcasts seront disponibles sur nos différentes pages sociales, sur TikTok, sur Africa, sur YouTube, sur Facebook, entre autres. Ce soir, nous allons parler de la Guinée pendant un débat de 30 à 40 minutes sur la gestion de la Guinée par le CNRD de Mamadi Doumbouya. Ce que je vais faire, j'ai plusieurs invités, ce sont des panélistes, aimables auditeurs, qui font partie des acteurs clés de cette radio, de cette émission Africa Midi, depuis sa création. C'est avec eux que nous allons essayer de débattre ce soir. Ensuite, dans les prochaines émissions, nous allons avoir au fur et à mesure des invités, aussi bien guinéens qu'africains, et des différents spécialistes de différents sujets, de la politique, de l'actualité, des domaines économiques, des entrepreneurs, des gens qui innovent, des gens qui avancent. Voilà, encore une fois, c'est un plaisir. Ce que je veux faire, j'ai mes invités en ligne, restez en ligne, mes auditeurs et mes invités. Je voudrais commencer par l'un d'entre eux, Monsieur Tierno Slimane Tata. Je pense que on va avoir un échange rapide puisqu'il a une contrainte. Bien entendu, si Monsieur Tierno Slimane Tata m'entend depuis Bordeaux. Monsieur Diallo, bonsoir. Alors, j'ai pas de. Non, pardon, je pense que j'ai activé le numéro de Monsieur Alassane Diallo. Alassane Diallo, restez en ligne.
Allô?
Hein. Sulaiman,
Allô?
bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Ba, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends. C'est un plaisir de vous avoir sur
C'est un
Africa Midi
plaisir
à nouveau.
de vous entendre, Monsieur Ba. Et bonsoir à tous les panélistes de l'Africa Midi et à tous les invités.
C'est un
Et
plaisir, c'est un plaisir.
comme vous l'avez signalé, j'aurais bien voulu rester plus longtemps, mais j'ai une contrainte. Et
Oui.
ben, je vous remercie pour l'invitation.
Bien entendu, bien entendu. Alors, un mot
Parfait.
avant de partir, un mot justement pour introduire cette émission. Voilà, Africa Midi, il y a longtemps, on a arrêté, et puis c'est la reprise, hein, c'est la nouvelle saison de 2024. Vous êtes un panéliste, vous êtes sociologue, vous êtes le président de du mouvement Révolution citoyenne, et vous avez beaucoup participé aux activités, aux activités des acteurs de la société civile du côté de la France, entre autres. Un mot par rapport à la reprise de ces émissions-là et par rapport aux enjeux concernant la Guinée avant de partir.
Merci, Monsieur Ba, de me donner la parole. Et comme vous l'avez dit, bon, cette émission, elle nous a beaucoup manqué parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et la communication manquait trop. Au niveau des panélistes, à chaque fois qu'on est en contact avec les gens, ils nous demandent quand la reprise de cette émission. Donc, on vous remercie pour nous donner cette opportunité d'analyser la situation sociopolitique de la Guinée et puis de la France et du monde. Et voilà. Donc, c'était un vide qui était là. C'est un vide qui était là. Et parce que, vous savez, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés en Guinée depuis la fermeture de Africa Midi. Donc, on avait des informations, mais on n'avait pas eu une émission qui pouvait remplacer Africa Midi. Vraiment, pour cela, on vous remercie. Et puis, bonne heureuse année à tous les panélistes, à tous les auditeurs et à vous, à votre famille.
Merci, Tiano Sliman Tata. C'est un plaisir. Nous sommes de retour. Les débats vont reprendre tous les samedis, aimables auditeurs. Vous allez pouvoir vous prononcer sur la situation de la Guinée, sur ce qui se passe en Afrique, sur ce qui se passe dans le monde. Il y aura des émissions, il y aura des chroniques dans cette comment sur Africa Midi. Et durant cette période de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est la période de la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est les quarts de finale qui démarrent. Et nous allons faire les émissions à 20h du côté de la France, 20h, 19h à Conakry. Et suite après la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons reprendre nos horaires habituels. Nos horaires habituels, c'est 21h en France et 20h du côté de Conakry. C'est également 15h à New York. C'est parti. Je vais enchaîner cette émission Imam Zuluteur avec mes invités. J'ai Alassane Diallo, qui est juriste du côté de Strasbourg en ligne. J'ai également Madiou Diallo, qui est expert et courtier en assurance du côté de la France également, dans la ville de Reims. Alassane, si vous me recevez, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi.
Oui, bonsoir Ibrahim. C'est un plaisir de revenir sur Africa Midi, comme Souleymane. Bonsoir aux panélistes qui sont là. C'est tout un plaisir de revenir parler de la Guinée, Ibrahim, pour peut-être nous qui venons tout récemment de Conakry. Il est impératif et important de parler de la Guinée. Et je pense qu'Africa est un outil habitué sur lequel on peut passer pour communiquer, pour parler, pour faire comprendre ce qui se passe. C'est tout un plaisir de revenir et nous serons tout à disponible pour parler de notre pays car personne ne va parler de la Guinée à notre place. Merci vraiment.
Merci Alassane. Restez en ligne. Madiou Diallo du côté des Reims. Bonsoir Madiou.
Bonsoir Ibrahim, très heureux d'être parmi vous. Bonsoir aux panélistes, de meilleurs vœux pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison. J'espère qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Effectivement, cette année nous avait beaucoup manqué et vous avez très bien fait de reprendre, surtout dans le contexte actuel et surtout sur les défis sur lesquels nous sommes tous attendus. Et merci de m'avoir invité. Bonsoir.
Bonsoir Mathieu, c'est un plaisir. Hein. Vous m'aviez manqué aussi, les panélistes, les auditeurs, l'émission tout simplement. L'émission, même si la Guinée, c'est une migraine, ça je ne vous le cache pas. Quand on pense à la Guinée, les problèmes qui ne font que s'accentuer, et parfois on a beaucoup de migraines. C'est ça aussi la Guinée, c'est aussi piquant. Et puis ce sont des défis aussi, ça fait partie de notre vie en tant que Guinéenne. Il faut se battre pour son pays, chacun en fonction de ses capacités, de ses compétences et puis des conditions qui sont à disposition. Allons-y, sur le débat de ce soir. La question, j'ai trois questions à votre endroit. Vous êtes tous les deux, je rappelle, là, vous étiez des panélistes, vous faites partie de ceux qui font Africa Midi à travers ces débats, qui enrichissent ces débats. Et ce soir, j'ai trois questions. Parlant de la Guinée, du CNRD, Alassane Diallo, je vais commencer par vous qui venez de la Guinée. Qu'est-ce que vous retenez de la gestion de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, 2 ans après, un peu de mots?
Écoute, Ibrahima, il est impératif de rappeler de la Guinée de ne pas parler juste de Mamadi Doumbouya. Pour moi, depuis 1958, la gestion de la Guinée n'a pas changé. Il y a eu des degrés qui sont venus, c'est-à-dire il y a eu des idées qui sont posées. Mais ce que je constate récemment en ce qui concerne la Guinée et ce que j'ai vécu et vu me donne beaucoup d'interrogations sur l'avenir de ce pays. Et ça ne m'étonne pas à juste titre, Ibrahima. Dans la mesure où le pays, si on prend aujourd'hui l'historique de ce monsieur, Mamadi, un caporal qui est parti de Paris, qui est aujourd'hui général corps d'armée à Conakry, pour moi, ça ne me pose pas beaucoup d'interrogations. Il y a une complexité de la population. Il y a si tu veux, l'élite qui est là depuis 1958 jusqu'à nos jours, n'a jamais été une élite patriotique, n'a jamais été des personnes qui sont là pour ce pays ou pour ce peuple. Et je peux aussi dire que le peuple est complice d'Ibrahim Mohamed. Ce pays aujourd'hui, ce pays
Mais
qu'on appelle le pays.
Alassane, d'accord. Ça, je peux te l'accorder. Il y a une certaine, peut-être, complicité, responsabilité de la part du peuple, des élites. C'est vrai, on va faire ce débat, c'est sûr. Je peux te l'assurer. Mais parlant de la gestion du CNRD, pendant 2 ans, c'est quoi aujourd'hui? Ça fait 2 ans, 4 mois,
Mais
si j'ai
Ibrahim
pas de bêtises.
Mohamed, la gestion du
Qu'est-ce que tu
pays,
retiens?
je retiens deux choses. Je retiens l'exil des forces politiques qui ne sont plus en Guinée. Je retiens qu'il y a une dictature sous forme de c'est-à-dire une dictature meublée à qui ne peut pas voir ce qui est en train de se passer, mais pour celui-là qui est plus intelligent peut vite comprendre ce qui est en train de se dessiner. Donc, en un mot, je peux retenir qu'il y a une dictature qui est en train de se dessiner, Ibrahim Mohamed, dans un pays où, aujourd'hui, les médias n'ont pas la possibilité de s'exprimer, où l'opposition en entièreté et en exil. Aucune force d'opposition n'a le droit de la parole. On ne peut définir que ça de la dictature, Ibrahim Mohamed. Il y a une dictature qui est en train de se poser sous une autre forme en Guinée. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre que ça, Ibrahim Mohamed. On ne peut pas parler de développement. On ne peut pas parler de l'enseignement. On ne peut rien dire sur la Guinée aujourd'hui si ce n'est pas une dictature qui est en train de se dessiner.
Bien sûr, Ibrahim Mohamed. Alassane Diallo. Alassane, je reviendrai à toi. Je vais enchaîner avec Mahadiou, mais bien avant, je voudrais introduire un autre panéliste, Mohamed Dingisiti, du côté des États-Unis à la frontière au Canada, qui fait partie de ces panélistes qui font cette radio Africa Midi et qui fait partie de mes invités ce soir pour débattre de ces trois questions. Dingisiti, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi, si vous m'entendez.
Bonsoir, Ibrahim Ahmed, comment ça va?
Ça va, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah, je te salue, je salue tous les panélistes qui sont sur la ligne et je suis très content encore de la reprise de cette émission parce que nous, ici aux États-Unis, surtout du côté de la frontière nord-est des États-Unis, le Michigan, on était beaucoup nostalgique de cette émission. Donc, je vous remercie et je te souhaite avec tous les auditeurs bonne et heureuse année 2024. Que 2024 soit pour nous une année d'union, de progrès, santé surtout. Donc, je te remercie et je suis à l'écoute parce que je viens de rentrer. Okay. Mais si tu as des questions ou bien des informations...
Je vais revenir tout à l'heure, Ding City. Je vais revenir tout à l'heure, après, ouais. Après Madou. Beaucoup. C'est un plaisir. Vous m'aviez manqué.
Me too.
Voilà. OK, il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. Franchement, les auditeurs, les panélistes, c'est... Écoutez, hein, c'est la reprise, hein, l'adrénaline. Il faut que ça remonte. Mahadiou, et la question, qu'est-ce que vous retenez de la gestion du CNRD 2 ans après, un peu de mots?
Merci beaucoup, Ibrahim Ahmed, pour la question. Ce qu'on peut retenir, c'est que grosso modo, le CNRD s'est fait rattraper par le système, toujours. Ça reste toujours d'actualité. L'arrivée du CNRD avait suscité beaucoup d'espoir parce qu'on sortait d'une situation chaotique. Vous vous rappelez qu'on avait tout dit pour ne pas que M. Alpha Condé fasse un troisième mandat. Vous avez fait un article sur le quart d'heure de trop. Mais hélas, et aujourd'hui, effectivement, je rejoins mon ami Alassane, c'est que nous sommes en train de prendre les chemins interdits en démocratie, c'est-à-dire nous sommes en train, effectivement, d'aller vers une dictature. Je ne sais pas qui est-ce qui conseille monsieur le général Mamadi Doumbouya, qui avait, comme tous les présidents d'ailleurs, qui viennent avec avec de belles intentions. Mais après, on voit qu'ils prennent une trajectoire à 180 degrés et qu'ils nous mènent dans une situation que chacun se pose des questions. Et aussi, on a le peuple qui est là, le peuple qui est impacté par ces trois phénomènes que j'appelle la résignation, la fatalité, l'ignorance. C'est tout un cocktail qui est mélangé, qui font qu'aujourd'hui, nous allons vers une dictature. Voilà, c'est ça mon...
D'accord.
C'est ça mon constat. Une dictature avec la résignation du peuple. Une dictature avec la résignation du peuple, mais comme vous savez, hein, après, quand une dictature commence à s'installer, on pense qu'on est roi, qu'on est omnipotent, que personne ne nous voit, qu'on est malin plus que tout le monde. Ben, un jour, on se rend compte qu'effectivement, un chat comme Alpha Condé, il a été cueilli. Personne, il ne pouvait pas imaginer. Ça risque de se paraître, mais c'est vraiment pitoyable pour le, surtout le peuple. Le peuple qui est pris dans un engrenage, comme dans un enclos, qui n'arrive pas à se libérer de cet espace et qui fait qu'effectivement, que nous sommes dans une situation très, très, très difficile pour nos compatriotes, très difficile.
D'accord. Ding City, Mohamed Diallo du côté des États-Unis, je voudrais enchaîner avec vous. Également la même question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la gestion du CNRD de Mamadi Doumbouya, récemment devenu général?
Et vous savez, on a un problème en Guinée, Ibrahim Ahmed. J'ai entendu des auditeurs qui a parlé tout de suite, la résignation du peuple de Guinée. Nous, notre pays, c'est un pays spécial. C'est du jamais vu. C'est tout ce qui peut ne pas se passer dans un autre pays. Nous, ça se passe chez nous. C'est la résignation. Tout le monde prend Dieu. Toute personne que tu vois en Guinée, je m'excuse, hein, il a échappé les vendredis dans les bureaux, chacun parle de Allah. Tout le monde est croyant. Mais si tu vois les actes de ces personnes, c'est incroyable. Wallahi billahi. Donc, c'est ça qui fait que je ne sais pas ce que nous, Guinéens, on a fait à Dieu. On doit se repentir, on doit demander pardon à Dieu, faire un combat commun. Le combat commun, parce que tout pouvoir qui vient, c'est nous. Moi j'étais à Conakry, et le coup d'État m'a trouvé à Conakry, j'étais au palais. Quand Mamadi Doumbouya a parlé, moi j'ai dit c'est fini, lui, il peut faire quelque chose pour la Guinée. C'est incroyable. Ici, aux États-Unis, on a eu des débats dans les différentes radios de la diaspora, ici, aux États-Unis. Nous tous, j'ai été l'un des premiers à soutenir Mamadi. Mais il y a d'autres qui se sont réveillés, qui ont dit c'est trop tôt. Le problème qu'on a en Guinée, c'est pas non seulement divisé pour eux. Ils ont vu ça sur le peuple. Si, c'est une minorité qui nous fatigue en Guinée. Je ne sais pas sur quelle base, mais c'est. La haine, c'est les Guinéens, personne n'aime l'autre. Parce qu'ils ne veulent pas que telle personne gouverne ou que telle personne, telle ethnie, il y a une division totale en Guinée. C'est ça qui est très dommage. Moi, c'est ça que j'ai constaté. Parce que le problème en Guinée, c'est on a trop de problèmes en Guinée. Sinon, il y a des trucs. Mamadi ne veut pas. Parce que lui, il avait la chance plus que tout le monde. Tous les régimes qui se sont succédés en Guinée, lui, il pouvait tirer les leçons sur ces gens-là. Mais il est dans un système où il ne maîtrise pas. Mais moi, quand les gens disent que c'est l'entourage du chef, moi je dis non. Lui, il est militaire. Ce qu'il a dit, qu'il n'y a pas quelqu'un que lui, il a pris les armes, il est parti faire coup d'état, déloger Alpha Condé. Comme des propagandistes ici aux États-Unis qui nous disent oui, que si quelqu'un est garçon, il n'a qu'à aller faire coup d'état, il n'a qu'à aller déloger Mamadi Doumbouya. Et promettre le miel en Guinée et se comporter comme ça, vraiment, je trouve que c'est très dommage. Donc,
c'est très dommage.
C'est très dommage.
Alors, Ding City,
oui.
Tous les fois, vous avez parlé de résignation du peuple. Est-ce que quelque part, ce n'est pas trop accuser le peuple? Est-ce que parfois, est-ce que vous ne dites pas aussi que le peuple de Guinée a tellement souffert que il est épuisé. Est-ce que c'est pas ça aussi? Parce que il y a quand même beaucoup de violence. La population guinéenne a subi beaucoup de violence de la part des dirigeants successifs dans ce pays.
Oui, ça c'est vrai. Parce que c'est une partie aussi parce que le traumatisme, le peuple est traumatisé. C'est vrai, il faut se dire la vérité. Mais nous avons vu, tu sais, la résignation, elle est extrême en Guinée. Regardez, qui pouvait. Et Bachir de Soudan, là. Combien d'années il a fait? 27 ans, je crois, au pouvoir, si je ne me trompe pas. C'est à cause de Niche de Pain qu'on l'a chassé de pouvoir.
Oui.
Mais nous, en Guinée, c'est extraordinaire. Parce que regardez l'Internet, regardez comment les journalistes sont marginalisés. Ils sont séquestrés.
C'est vrai, aujourd'hui, vous avez même Sékou Djamal Pendessa de
Qui est en prison?
SPPG, hein, c'est le syndicat professionnel de la presse,
un Guinéen, donc voilà, qui est aujourd'hui entre
j'ai
les quatre
quitté
murs.
Conakry. Il y a deux semaines que j'ai quitté Conakry, je suis arrivé ici, il y a deux semaines, mais quand j'ai quitté Conakry, l'Internet, ça n'allait pas. Le carburant, c'était des problèmes. Moi, nous, j'ai pris, je te dis, j'ai loué moto de chez moi, Transit là-bas à l'aéroport. J'ai payé 200 000, je te jure.
Wow.
Et encore,
ah ouais.
J'ai attaché ma valise sur une moto. Il faut voir. J'ai rencontré des gens, des personnes à l'aéroport Air France pour Paris. Dès qu'on a pris les airs, après avoir quitté Conakry, c'est en Gambie, on a pris le kérosène pour Paris. C'est là-bas qu'ils sont ravitaillés. Mais quand on a pris les airs, on a quitté l'espace aérien guinéen. Je te jure, l'Internet est entonné. Tout le monde applaudissait dans l'avion. Ça m'a marqué. Hein. On est descendu à Banjul, en Gambie, là-bas. Il faut voir. Ça marchait, les téléphones marchaient, tout allait bien. Hein? Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas à manger à Conakry, mais il a son téléphone. Il veut s'informer. On a bloqué tout ça. Et personne ne dit quelque chose. Les seuls journalistes, quelques-uns des journalistes qui ne sont pas corrompus, parce qu'il y a des doubles journalistes en Guinée, hein, il faut se dire la vérité. C'est très dangereux. Tu ne vas pas connaître quelqu'un, Ibrahim, c'est quand tu vas le confier un poste. Qui pouvait imaginer avec ce journaliste que on était ensemble ici, on a fait des débats de la France là-bas aux États-Unis ici, que tout le monde connaît, c'est eux qui défendent aujourd'hui ce régime.
Hein? Bien,
qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la
gardez la ligne.
Mais c'est très dommage que Dieu nous sauve, Ya Allah.
À qui Dieu nous sauve.
Merci beaucoup, Ibrahim Ahmed. Je suis toujours là.
Merci, Dimitri. Restez en ligne. Alassane Diallo, je voudrais enchaîner avec vous. D'accord, vous parlez de dictature du CNRD. Avant le CNRD, il y avait le régime de Alpha Condé. C'est quoi la comparaison? Quel est le mieux? Quel est le entre les deux? Lequel est préférable?
En fait, vraiment, on ne fait pas aux autres, là actuellement le diagnostic du pouvoir de Alpha Condé et celui de Mamadi Doumbouya, mais l'impératif qu'on rappelle quelque chose qui est très très important, Ibrahima. Tu sais, quand moi je te parle du peuple en général, moi je vais donner un exemple et indexer une personne que j'ai combattue depuis des décennies au sein des structures politiques qui n'y était même pas en ce moment aux affaires. Et heureusement que Madi il est à côté, je t'expliquerai cette anecdote qui s'est passée à la présence de Madi où. C'était à Paris, à la venue de Ousmane Gawal et de Baïdi Haribo, sur la mise en place de la structure Mouvement Tout Sauf Alpha. Ce Mouvement Tout Sauf Alpha qui était créé, Ousmane Gawal avait cette audacité de dire les choses comme s'il avait le monopole de la vérité, m'a amené à se mettre à un débat avec Ousmane. M'a dit où il était présent. Aujourd'hui, Ousmane qui est là, qui hier était avec tout le monde, qui partageait beaucoup d'idées sur les médias, qu'on pouvait dire était l'élite venue de la France. Mon gars, ce monsieur, aujourd'hui, il est à la cause de tous les problèmes de la Guinée. De tous les problèmes de la Guinée. Et ce personne, hier, il était combattu, il était averti par une force politique qui était l'IFDG. Parce que l'IFDG peut tout dire, sauf dire qu'il n'a pas été averti sur la personne d'Ousmane Gawal. Moi, en personne, j'ai échangé avec celle d'Oudalé. Me dire que ce n'est pas la bonne personne. C'est une opportuniste. Au-delà de tout ça, Ibrahim Mohamed, là, je l'indexe publiquement, moi.
Non, le but, justement, il ne faudrait pas qu'on se focalise quand même sur la personne de Ousmane Gawal. Et pour les éditeurs.
On ne peut pas parler de la vision et tourner autour du pot à chaque fois sans qu'un
non, non. Alassane, je suis d'accord. Allons-y sur les faits. D'ailleurs, entre parenthèses, pour les auditeurs, Ousmane Gawal.
Les faits qui sont là, ils sont très faciles à détecter. Mamadi est venu, comme l'a dit Madiou, il y avait ce troisième mandat, il y avait l'engouement des personnes qui avaient marre de Alpha Condé. Tout le monde l'a applaudi. Il est venu avec des mots, comme tout putiste en général. qu'il va faire ça, tout le monde l'applaudit. Et après quelques temps, il est allé de structure en structure, c'est-à-dire il a cherché à éliminer les choses, de structure en structure, accompagné par des jeunes qui étaient hier de la société civile, vous pouvez tout accuser Mamadi, sauf
dire... Non, c'est vrai que Mamadi Doumbouya a débauché des partis politiques, hein, parlementaires en Guinée. Il a débauché la société civile, il a débauché des médias. Mais c'est vrai, il est parti récupérer des matières grises, entre guillemets, de certain nombre d'organisations.
Donc, par conséquent, on peut conclure alors ces personnes qui étaient là hier représentées, la société représentée, la population, c'est ces mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Quand moi je te parle de la population en général, tu sais, Ibrahima, il est bien qu'à chaque fois qu'on se fasse berner par des personnes, mais il est impératif à un moment donné qu'on se pose des interrogations, de savoir les choses et de distinguer les choses. Ibrahima, Mohamed, les armes ne peuvent pas régner pour tant, c'est pour un temps.
C'est sûr.
Un temps, Ibrahima, Mohamed. Et ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, on va conduire, ça ne s'est jamais passé en Guinée. Ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui pour l'origine de ce pays n'est pas Ibrahim Mohamed. Un pays où tu ne peux pas avoir de l'information, où on peut créer, où on veut créer un média d'État, c'est-à-dire que tout le monde se retourne vers la RTG, parce qu'à la RTG, on dit ce qui plaît et ce qui sait, où on ne peut pas laisser la communication, où on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Ibrahim Mohamed, ce pays, il est très dangereux et c'est le cas de mon pays aujourd'hui.
C'est le cas aujourd'hui, Ibrahim Mohamed. D'accord, Alassane. Alors, pour les auditeurs, je voudrais rappeler, hein, Ousmane, quand tu parles d'Ousmane Gawal Diallo, c'est actuellement le porte-parole du gouvernement guinéen. Et quand Alassane parlait de Baïdi Haribo, c'était un proche de l'ancien président Alpha Condé, qui a été aussi vice-directeur de la Banque centrale de la République de Guinée. Voilà, ça c'est à l'endroit de
mes députés. Et député.
Également député, effectivement, qui a été également député, donc, effectivement. C'est vrai, qui a été très proche de l'opposition, de l'opposant Tidia Touré dans son parti avant de quitter.
Alors, ça amène au peuple de voir ces personnes qui vont venir demain pour leur dire « Je serai là pour ça ». Il est important, d'où c'est de là Ibrahim devait partir, le changement dans les pays. C'est-à-dire, c'est d'observer les gens et savoir les sanctionner quand il est nécessaire.
Donc, si je te suis, Alassane Diallo, Mamadi Doumbouya est pire que Alpha Condé.
Plus que Alpha Condé, bon.
Non. Est-ce qu'il est pire que Alpha Condé?
Oui, bien sûr. Je peux te dire, Mamadi est pire qu'Alpha Condé.
Ah ouais.
Il affirme que Mamadi il est pire qu'Alpha Condé dans tous les domaines. Mamadi il est pire qu'Alpha Condé. Alpha Condé l'a tout fait en Guinée, mais Alpha Condé n'a jamais monopolisé la communication. Il a cherché à saboter, mais il n'a jamais éteint des radios. Aujourd'hui, Fim FM, dis-moi où il se trouve ce radio qui était là.
Mais quand même, Alassane Diallo, Mamadi Doumbouya, quand même, il a soulagé des Guinéens sur concernant les infrastructures routières. Je ne parle pas globalement de tout. Mais oui, disons la vérité quand même. J'espère que tu as voyagé de Conakry à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement?
Ces infrastructures, pour quel prix, à quel coût, Ibrahim Mohamed, à quel coût?
D'accord.
Ces infrastructures, à quel coût?
Après, je te parlerai aussi de la CRIEF. Je parlais aussi de la CRIEF. Voilà, donc le but, c'est de retrouver justement les ressources, le patrimoine guinéen qui aurait été volé.
L'histoire de la CRIEF, j'ai tout ça, Ibrahim. Il est impératif qu'il y ait un débat très important sur la CRIEF. La CRIEF.
On va le faire.
La CRIEF, c'est un instrument qui a été applaudi, mais un instrument qui a été inutile pour le peuple et pour le pays. Ça, je dis à la connaissance de cause.
Je suis d'accord, il y a beaucoup de choses à dire sur la CRIEF, effectivement.
Voilà,
il y a beaucoup, voilà.
La CRIEF, ça ne serait pas un débat sur lequel il faudrait juste dire des mots. C'est des choses qui sont très techniques sur le plan juridique. Il est impératif de soulever beaucoup de choses. On ne se lève pas d'un seul coup. C'est pour cela que je te dis, il est impératif que le peuple veille. Il est impératif que le peuple arrache la liberté qu'il le faudrait. Quand on te parle aujourd'hui de Pendessa, juste Pendessa est sorti. Mais après Pendessa, il est où aujourd'hui? Les médias, ils continuent à fonctionner. Pendessa n'est pas un patron des médias en Guinée.
D'accord. Alassane Diallo, reste en ligne. Je voudrais enchaîner avec, Madiouz, sans que c'est qui attend, hein, qui attend. Par rapport à ce débat, justement, par rapport à cette question, est-ce que Madiouz, tu es aussi du même avis que Alassane Diallo, le régime de Mamadi Doumbouya est pire que celui de Alpha Condé?
Je ne pense pas à la même chose que mon ami Alassane. Je pense que j'ai espoir. J'ai la conviction qu'ils vont se rattraper. J'ose encore y croire, hein, j'ose encore y croire. Mais je reviens un peu en arrière par rapport à ceux qui sont ministres. Enfin, moi, dans un régime, je n'indexe jamais ceux qui occupent des postes de responsabilité directeur ministre. Parce que c'est des fusibles, ils peuvent sauter à tout moment. Mais plutôt, c'est celui qui est responsable du pays. Le chef est toujours responsable sur tous les cieux. Si on a vu que Hissène Abréo a été poursuivi pour crime de masse, c'est pas lui qui allait dans les prisons pour torturer les gens. Non, c'est parce qu'au moment des faits, c'est lui qui était président de la République, c'est lui qui était chef de l'État. Si le capitaine Dadis aujourd'hui l'est poursuivi, il n'était pas au stade, il n'est pas allé avec les gens de Kaléa pour aller poignarder ou tirer sur les gens. C'est parce qu'au moment des faits, le chef est toujours responsable. D'ailleurs, il y a un livre même du Alpha Condé qui avait écrit que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc à ce niveau, moi je ne compare pas de Alpha Condé et Mamadi. Déjà, ils ne sont pas venus au pouvoir de la même manière. Doumbouya est venu au pouvoir par les armes. Parce que aussi, si on peut aller pousser l'analyse beaucoup plus loin, le terrain était fertile. Toute personne en ce moment qui prenait les armes pouvait facilement renverser le régime dans la mesure où il y avait effectivement cette envie de changement dans notre pays. Maintenant,
il y avait le ras-le-bol hein, de la population guinéenne, parce qu'il faut rappeler que l'arrivée de Doumbouya, ce coup d'État, ça a été une sorte de soulagement. On a vu les gens sourire en Guinée.
Absolument, parce qu'il y avait une certaine crispation qui était là. Il y avait les gens étaient en prison. Le pays devenait plus dur. Donc il y avait une certaine renaissance. Voilà, c'est le mot. Il y avait une certaine renaissance qui est là, mais aujourd'hui, on se rend compte effectivement que cet espoir qui nous a conduit aujourd'hui à tendre vers une descente aux enfers. Donc moi, je ne compare pas les deux. Je sais une chose, qu'il a encore une chance de se rattraper. Je continue à le dire, il a encore une chance de se rattraper. C'est à un moment donné, un chef, il se rend compte, parce que ça peut arriver, hein. Il peut
se rendre compte. Qu'est-ce que Mamadi
en disant stop à tout ça, on appelle les acteurs politiques, tout le monde rentre au pays, on parle du pays, on parle des prochaines élections, et dire, moi, en tout cas, moi, je vous ai promis que je partirai à la fin de l'année 2024, et trouver une solution. Moi, je pars en année 2024, comme ça, c'est réglé, cette question est réglée. Donc, les acteurs politiques pourront maintenant décider d'un chronogramme, même si après 2024, parce que de toute façon, à ce niveau-là, je sais que même en 2024, on n'aura pas d'élection, ça c'est certain. On n'aura même pas, je ne pense même pas, on nous parle de référendum dans le premier semestre, mais imagine le contexte dans lequel le pays se trouve aujourd'hui, pas de médias, rien du tout, donc le pays. Donc il y a beaucoup de choses à remettre en marche avant qu'on aille vers les élections. Donc moi je ne compare pas les deux régimes, je sais juste une chose, que Mamadi Doumbouya, il a encore une option pour pouvoir se rattraper. Maintenant la balle est dans son camp, c'est à lui de voir comment il pourra jongler avec tout ça et nous sortir de cette situation assez difficile pour nos compatriotes.
D'accord. Madiou, dis-moi, est-ce que Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on peut dire, qu'il avait une bonne volonté, il est venu, mais après, ça n'a pas marché? C'est quoi le problème, en fait? Pourquoi? Parce qu'il a fait un discours qui a été applaudi. Il a dit que la boussole, la justice sera la boussole. Et il y a eu un soulagement. Il a libéré des gens qui étaient emprisonnés par Alpha Condé. Il a parlé des projets, de changer la Guinée. Il a donné espoir. Il a inspiré. Mais où est-ce que ça n'a pas fonctionné?
Mon cher, il y a une gangrène qui est là qu'on appelle le système. Le système, c'est une attitude, c'est un comportement des responsables vis-à-vis de la chose publique. Et aujourd'hui, il s'est fait rattraper par ce système. Rappelez-vous, que ce système, je l'avais dénoncé. C'est le même système qu'elle a depuis 1958. Et aujourd'hui, on n'a pas encore eu un chef qui a le courage de désinstaller ce système. Et même si, comme on l'a toujours dit, hein, même si on amène Obama dans ce pays, dans le contexte actuel avec ce système, ça ne marchera pas et ça ne marchera guère. Et n'oubliez pas, les Guinéens, parfois, ont la mémoire courte. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de revivre exactement la même chose que ce que nous avons connu auparavant, au temps de Dadi. Seulement, on est en 2024. Il y a les réseaux sociaux, il y a les médias. Vous ne pouvez pas créer un média d'État parce que les gens ont toujours d'autres moyens, utilisent toujours d'autres moyens pour s'informer, pour vous mettre la pression. Ce n'est plus pareil. Mais ils utilisent exactement la même chose. C'est le même mécanisme qu'ils utilisent. C'est-à-dire bâillonner, c'est-à-dire on vous appauvrit jusqu'à... Voilà, et puis on vous jette des miettes. Et quand on vous jette des miettes, tout le monde tombe sur ces miettes en disant « Ah, enfin, je commence à respirer. » En fait, on torture le peuple parce que c'est un peuple qui est résigné, c'est un peuple qui est fataliste, qui, tout ce qui arrive, bon, on tend la main, le peuple n'a pas encore confiance, enfin, n'a pas réellement... comment je vais dire ça, n'a pas la confiance réelle de sa force.
Mais Madiou, justement, je voudrais te poser la même question que j'avais adressée à Think City tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas trop demandé au peuple quand on sait aussi ce que le peuple de Guinée a subi de la part de ses dirigeants? Quand même, c'est un peuple qui a été beaucoup quand même éprouvé, martyrisé, violenté, tué.
Mais Ibrahim Ahmed, on n'est pas plus que la Sierra Leone, on n'a pas connu de guerre, nous. On n'est pas plus que le Libéria, le Rwanda, ils ont connu des guerres, mais nous, on n'a pas connu des guerres, on touche du bois. Donc nous, c'est encore mieux, c'est facile pour nous de nous relever de tout ça. Mais c'est facile de le dire, mais il faut qu'il y ait une force qui est là, que nous sortons du tribalisme, de l'ethnostratégie qui est utilisée pour disperser nos compatriotes. Il faut que les Guinéens se disent enfin stop, il faut que je ne me bats pas pour moi, mais je me bats pour les générations futures. Si tous les Guinéens pensent aux générations futures, je pense que cette question d'ethnostratégie, on la mettra de côté. Mais si chacun pense qu'effectivement, non, moi je ne pense pas, je pense de moi, maintenant, tout de suite maintenant, ça va être compliqué de s'en sortir. Et pour cela, il faut que les forces vives de la nation se donnent la main et qu'il faut qu'on essaie de trouver un mécanisme de pression pour qu'on aille vers les élections. Seules les élections peuvent nous sortir de cette situation et effectivement avoir des textes réglementaires, des garde-fous pour nous permettre de ne pas tomber dans les erreurs du passé comme ce que nous avons connu avec Alpha Condé.
D'accord, d'accord. Bien, Madiou, reste en ligne. Je voudrais enchaîner avec Think City avant d'entamer la dernière question de ce débat, de cette émission de ce soir. Think City, la même question entre le régime d'Alpha Condé et celui de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Quelle comparaison peut-on faire?
Ok, merci beaucoup Ibrahim Ahmed. Parce que moi, pour moi, donc tu sais, chacun a sa façon de réfléchir, chacun a sa façon de voir les choses. Et Alpha Condé, tous ces problèmes en Guinée, c'est Alpha Condé. C'est-à-dire, si tu vois qu'on a eu tous ces problèmes, surtout ces derniers temps-là, de la démocratie, de tout ce qui est mal, c'est Alpha Condé. Alpha Condé, le fait de provoquer le troisième mandat-là, c'est-à-dire, il avait, s'il n'y avait pas ce coup d'État-là, c'était la guerre civile, j'étais sûr et certain, parce que tout le monde en avait ras de bord. Tout le monde était fatigué. Il nous a créé des problèmes. Il faut se dire la vérité. Tous ces problèmes-là, s'il n'y avait pas ce coup d'État-là, c'était grave. Mais avec l'arrivée de Mamadi, ça, le peuple a respiré un peu. Il y a eu un soulagement pour faire baisser la tension. Sinon, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas comparer le régime de Alpha Condé avec quelqu'un qui est professeur de la Sorbonne, qui est arrivé. Tout le monde sait comment il a été élu en Guinée. Moi, je crois que s'il a fait un mandat, il devait se résigner. Ce n'est pas encore créer des problèmes, faire des défilés, c'est de créer des problèmes, imaginer des trucs, séquestrer des journalistes, essayer de rendre la Guinée impossible pour un Alpha Condé. Moi, je crois que vraiment, comme l'a dit un de mes collègues là-bas, il dit que on a l'espoir avec Mamadou Doumbouya, parce que c'est pas fini. Il n'a fait que 2 ans. On est en train de voir maintenant. Je sais une chose, que ça ne sera pas comme Alpha Condé. J'ai l'espoir, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est une dictature qui se prépare. Il est en train de tester le peuple. Il est en train de tester le peuple. Et c'est ça le problème, parce que déjà, il a muselé l'armée, il a divisé l'armée. Et il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'homme, si tu veux, capable à Guinée au sein de l'armée. Sinon, Mamadou Doumbouya, un légionnaire français, ne pouvait pas venir s'imposer comme ça en Guinée sans s'arranger, sans se trouver, comme Idi Amin, le ministre de la Défense. Ses parachutes, lui, il voulait, on l'avait écarté complètement, il était chargé de pays. Mais Michel Farage, il est arrivé en Guinée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de soutenir Mamadi. Tout ce qu'il y a manipulation ou bien diviser l'armée, ce monsieur, ce vieux-là, il fait partir. Un gendarme, il n'est même pas militaire. Pour te dire, en Guinée, il y a la manipulation, que ça peut marcher. Donc, moi, je crois qu'il y a certaines choses, beaucoup de choses que Mamadi est en train de faire comme ça. Ce n'est pas le projet de Mamadi, mais il a concrétisé. Il faut saluer, il faut le tirer le chapeau. Mais vraiment, ça reste beaucoup à faire, surtout dans cette situation, surtout la situation de la Guinée. La Guinée, depuis que 58, on a eu l'indépendance, on est dans cet état. Rien ne marche, que ce soit l'électricité, l'eau, la démocratie, les journalistes sont séquestrés. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Même l'Internet est coupé. L'Internet est coupé pendant plus d'un mois. Mais c'est quand même.
Trois repas, deux repas par jour. Il n'y en a pas. C'est très difficile. C'est très difficile. Parce que tout le monde est au chômage. Les cafés là, c'est dans les cafés où tu entends toutes les informations. C'est très sérieux. Partout où tu vas.
C'est triste quand même. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réellement, peut-être pris conscience de l'enjeu de l'Internet dans le tissu social, dans le tissu économique et dans le quotidien du Guinée tout simplement. Mais bon, ça, peut-être qu'ils en ont pris conscience, mais qu'ils ont un enjeu plus important. Peut-être.
Ouais. C'est très dommage. Prier Dieu là, c'est bon. Mais il faudrait que nous-mêmes, on se réveille, on regarde ceux qui nous divisent. Penser à nous, réfléchir sur nos actes. Ce que je pense pour moi, Mohamed Dinck City, à la frontière des États-Unis ici et du Canada, je vais penser pour la même chose avec toi, ou bien Tcherno là-bas, Madjou, ou Samsi, ou un autre, tous les auditeurs. C'est ça le problème. Mais si moi je suis dans le beurre, je défends mon gagne-pain, je m'en fous des autres. Ça ne peut pas marcher. C'est comme c'est pas la peine de dire le nom de... Mais tout le monde connaît ce qui se passe en Guinée. Les gens qui défendaient la démocratie, qui disaient que même tuer un président a une raison. Aujourd'hui, qu'est-ce que ceux-ci sont en train de raconter? On a un problème en Guinée.
C'est triste. Dinck City, j'ai une dernière question. On va entamer la dernière question avec toi. La dernière question. Pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en Guinée? À chaque fois, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous voyez, après Conté, Alpha Condé est venu, déjà avant, il y avait la transition catastrophique des militaires, et avec le drame, les crimes contre l'humanité du 28 septembre. Ensuite, il y a Alpha avec la dictature qui est mise en place, qu'on a dénoncé, donc les violences, les manifestants qui ont été violentés. Il y a eu des morts, beaucoup de morts parmi les manifestants en Guinée. Ensuite, aujourd'hui, on a Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'à chaque fois, un pas en avant, 2 en arrière?
Tu sais, pour moi, c'est ma conception personnelle, Ibrahim Ahmed. C'est la haine, la division entre les Guinéens. Ils ont réussi, depuis Sékou Touré jusqu'à maintenant, ils ont réussi à diviser pour régner. Donc, c'est ça qui est inculqué dans l'esprit du Guinéen. Sinon, comment l'Ansana Sékou Touré va mourir, l'Ansana Conté va venir? Il va essayer de faire ce qu'il peut. Il a quitté. Et Dadis va venir. Et lui, il va commencer à faire la langue. Il va commencer, si tu veux, à réunir son ethnie. Il va essayer de tout faire pour se maintenir au pouvoir. Lui, il était avide de pouvoir. Il veut rester à tout prix au pouvoir, divisé pour régner. Il a recruté les gens. C'est maintenant qu'on commence à comprendre la réalité, qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. et sa façon de recruter, sa façon de se maintenir au pouvoir. C'est la même chose. C'est Kouba qui a terminé la transition. Alpha Condé est venu. Vous avez vu comment? Diviser pour régner. Tant que nous, Guinéens, on ne cesse pas, pour moi, tant qu'on ne cesse pas la haine l'un contre l'autre, et parce qu'on ne veut pas telle ethnie, ou bien on ne veut pas telle chose, les gens là sont faits, ou bien ils sont nés pour gouverner, ou bien les gens là sont nés pour chercher l'argent, ou bien les gens là sont nés pour ceci, cela, ça ne pourra pas marcher en Guinée. On n'a jamais eu de guerre en Guinée. On n'a jamais eu de guerre en Guinée. Mais regardez comment nous sommes. En Côte d'Ivoire, je prends un exemple Côte d'Ivoire que je connais. Si tu disais à un Ivoirien, depuis qu'on a commencé à dire que tu envoies le certificat de naissance de ton grand-père, c'est ça qui a provoqué l'histoire en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre. Mais aujourd'hui, regarde comment le pays avance. Malgré tout ce qu'on dit sur Alassane Ouattara, regardez le pays. Tu rentres aujourd'hui à Abidjan, c'est incroyable. Tu vas te courir à Paris. Donc nous, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça la haine, la division.
Donc la haine.
La haine. Tant que d'accord. On ne change pas, ce que je pense pour moi, je vais penser pour toi, je vais penser pour un autre Guinéen, ça ne pourra pas marcher. Parce que les gens sont... Même si tu dis bonjour à quelqu'un, une minute seulement, même si tu dis bonjour à quelqu'un, au nom de Dieu, il est aigri. Surtout si il sait que tu viens de l'Ouest. On te voit dans une voiture étrangère, ou bien on te voit dans une voiture qui est un peu propre là. Tu dis bonjour à quelqu'un, seulement on n'a pas le temps. Mais sinon, si j'allais te raconter une histoire là, j'ai pris ma voiture, j'ai pris. Wallahi billahi. Acheter Boiri pour un petit garçon qui était à bord de la route. Je voulais acheter, parce que moi, pour déjeuner, aller chez mon château pour déjeuner, je prends l'après-midi ou bien Boiri le matin. J'ai garé, j'ai vu une femme qui vend Boiri, je me suis dit de côté, je ne vais jamais oublier ça, je me suis mis de côté, j'ai garé, il y a un caisse à côté, j'ai dit à la femme de venir, elle m'a mesuré là-bas, il y a un bébé de 3 ans qui a couru vers moi. Et s'est arrêté. Je regardais gauche à droite. J'ai demandé au kiosque. C'est pour... Il dit non, c'est le voisin là. Son papa avec sa maman était assis là-bas, sur un manguier. Moi, j'ai dit de mesurer pour le bébé. Moi-même, j'ai tenu 4 heures là. La femme a mis 5 000. J'ai donné à l'enfant. L'enfant, au lieu de partir, c'est un bébé. Il s'est assis déjà, il a commencé à boire. C'est là. Il faut voir comment son père a fui pour venir. Il courut pour venir. Il m'a dit, il est venu, il a attrapé son enfant, il a laissé pour là. Il dit, regardez-moi ça, c'est comme ça, quand vous venez ici en Guinée, vous faites, comment lui il a su que moi je suis à Guinée, ou bien quoi. Vous venez, vous comprenez partout. Sa femme même était gênée, sa femme dit, elle est venue me dire, monsieur, mon frère, excusez-moi, hein, faut pas considérer ça. Je dis, il faut prendre le casserole à Tivali. Il a refusé. Le monsieur, il faut voir comment il était énervé. Tout le monde est aigri comme ça. Je ne sais pas pourquoi.
Ah, les expériences guinéennes, le quotidien guinéen. Merci,
Dinti. Pourquoi lui va te fâcher comme ça?
Jamais ce que je vais faire. Je fais une émission. Vous qui êtes allé en Guinée pour nous raconter un peu des épisodes et puis ce qui se passe. On va faire une émission peut-être sur ça. C'est important. Et puis les leçons que vous avez pu tirer personnellement de vos séjours en Guinée. Dinti City, Alassane, effectivement, qui vient d'arriver aussi. Merci, Dinti City. Alors, je voudrais enchaîner. Avec Alassane Diallo. Alassane, voilà, ton micro est activé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en Guinée? Même pas en avant, bien en arrière.
Ouais, ce qui n'a pas fonctionné, c'est très facile, Ibrahim Mohamed, c'est le manque de patriotisme, une volonté de bien faire. Sur ce cas, on a un problème en général, nous les Guinéens. Au fait, on n'a pas ce patriotisme de servir notre pays, cette diversité de vouloir faire bien les choses. Et même si tu as envie, quand tu arrives en Guinée, tu as beaucoup de problèmes. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, Ibrahim. Je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner les conclusions des événements du 28 septembre, de ce qui s'est passé sur le règne de Dadis. Mais au vu de ce qui a été dit, nous pouvons dire qu'il y a eu, c'est-à-dire une trahison entre l'élite du CNDD à l'époque. Et c'est ce qui a posé problème. Qui a été, c'est-à-dire, conçu, qui a été fabriqué par des venants, c'est-à-dire des personnes qui sont sorties de rien, qui ont divisé l'élite qui était là, qui devait aboutir à un consensus. Parce que, au vu de ce que nous entendons et de ce que nous voyons aujourd'hui, si on nous demandait de faire des analyses sur la transition du CNDD, on peut conclure si, tels qu'ils sont venus au pouvoir, ils avaient organisé les élections, il allait y avoir un président juste qui est élu, et ce n'est pas ce qui s'est passé au sein du CNDD. Quand tu prends le cas du professeur Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, après 40 ans d'opposant, ou 44 ans et quelques à l'opposition, il vient au pouvoir dans les conditions dont il connaît très bien. Ce monsieur nous amène à un troisième mandat qui nous conduit aujourd'hui à la venue du caporal Mamadi, qui est devenu pour la suite général corps d'armée. Ce général qui est venu nous dire qu'il est là pour réparer ce qui s'est passé, tout en se focalisant, et pour réparer ce qui s'est passé, tout en se focalisant sur le passé, c'est ce monsieur aujourd'hui qui veut nous ramener dans l'enfer, Ibrahim Mohamed. Donc il y a ce manque de patriotisme qui s'oppose aux Guinéens en général. Et partout où nous vivons, nous avons ce manque de patriotisme, Ibrahim Mohamed, qui nous pose beaucoup de problèmes. Nous avons ce manque de volonté de bien faire les choses. C'est-à-dire que le Guinéen n'arrive pas à faire les choses telles qu'il faudrait les faire, Ibrahim Mohamed. Nous débutons...
Un manque de patriotisme. D'accord.
Ce manque de patriotisme nous range au fond, Ibrahim Mohamed. Pour moi, c'est ce qui nous pose problème. De 1958 à nos jours, il y a eu ce manque de patriotisme. Parce que ce 1958, entre guillemets, de l'indépendance que nous parlons, c'est-à-dire si tu prends aussi l'historique de ça, il y a toujours eu des hauts et des bas pour qu'il y ait cette indépendance qui ne nous a pas aussi beaucoup servi. Donc, ce manque de patriotisme, il est impératif que le Guinéen travaille beaucoup sur ça. Moi, en conclusion, je peux te dire, le problème de la Guinée est dit au manque de patriotisme, au manque de la volonté de bien faire les choses. C'est ces deux cas qui posent beaucoup de problèmes pour moi.
Merci. Merci, Alassane Diallo. Je voudrais conclure, cette partie, ce débat avec Mahdiou. La même question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné concrètement? Est-ce que c'est un problème de patriotisme, comme dit Alassane Diallo? Est-ce que c'est un problème de haine entre les Guinéens, comme dit Deng City du côté des États-Unis? Ah, excusez-moi, Mahdiou, je pense que ton micro était désactivé. Voilà. Allez.
Merci beaucoup pour la question. Moi, je pourrais dire que c'est un problème purement guinéen. Le Guinée, il est ce qu'il est. Maintenant, après, vous savez, la révolution a eu beaucoup d'impact sur le moral du Guinéen. Donc, les séquelles continuent encore.
C'est un problème guinéen. Mais je n'arrive pas à comprendre.
Le problème est guinéo-guinéen, c'est nous-mêmes, notre problème c'est nous, notre problème c'est nous. Comme je disais, on a aussi connu la révolution qui a eu un impact négatif sur positif pour certains, et moi je dirais négatif pour nos compatriotes, et ce sont ces séquelles qui continuent, c'est-à-dire cette manière de ne pas faire confiance, cette manière de suspicion, de doute, d'être aigri, d'être méchant, de faire du mal, de rigoler. En fait, c'est tout un mélange qui est là. Donc, il faut déconstruire complètement la société guinéenne, la déconstruire et reconstruire, faire autre chose, parce qu'on n'est plus en phase avec ce qui se passe dans le monde. Parce que si tu prends l'exemple d'un Guinéen qui vit dans notre pays, pour lui, c'est lui le connaisseur, c'est lui qui est éveillé, c'est lui qui sait. Mais il se rendra compte qu'il ne connaît absolument rien. C'est lorsqu'il sort de la Guinée. Et j'ai dit, mais bon sang, moi j'étais dans le noir. Pour moi, c'est moi qui connaissais tout. J'étais plus éveillé, j'étais plus civilisé. Mais il se rend compte finalement qu'il ne connaît absolument rien. Qu'il est dans une bulle. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas avoir des idées neuves. Il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas innover, il ne peut pas créer, il ne peut pas faire quelque chose qu'on attend réellement d'une personne dans la société. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est tous tes paramètres là, c'est-à-dire la haine, mais bon, là, pour se débarrasser de tout ça, effectivement, il faut qu'on ait quelqu'un qui se mettra au-dessus de tout ça, qui dira que moi, mon but, je ne suis pas venu pour faire des merveilles, mais je suis venu pour sauver mon peuple. C'est ça, il faut sauver, c'est-à-dire avoir des... Pas pour, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas des infrastructures où, si vous voulez, même si on donnait 1 million de dollars à chaque Guinée, ce n'est pas ça C'est pas ça qui va faire que les choses vont changer dans notre pays. Parce que l'argent, ça se remplace, ça va vite, vous les dépensez. C'est pas ça. C'est l'état d'esprit. Il faut qu'on ait quelqu'un qui dit, je sauve mon pays. Si mon frère y vole, je le mets en prison. Si ma soeur, ma mère, elle fait quelque chose, je donne l'exemple.
Quelqu'un qui privilégie l'intérêt de la Guinée.
Exactement. Il faut quelqu'un. Par exemple, aujourd'hui, enfin, on parle de la CRIEF, mais ça fait rire aujourd'hui. La CRIEF aujourd'hui, le minibus qui conduit vers la CRIEF, qui devrait être plein, mais ce minibus est à moitié plein. C'est-à-dire que ça fait rire même les gens aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est devenu un instrument de règlement de compte. C'est-à-dire lorsqu'on veut. En fait, c'est-à-dire tout est construit sur du faux dans notre pays. C'est-à-dire on fait semblant. Le faire semblant. Je fais semblant de donner de belles perspectives. Mais bon, après, au fond de moi, je sais ce que je fais, je suis ce que je suis. C'est ça. Il faut qu'on ait un patriote qui se dit, je viens pour sauver mon peuple. Voilà, je donne l'exemple, je viens pour sauver mon peuple.
Merci, Madiou Diallo, pour conclure ce débat ce soir, aimables auditeurs. Il est 21h01. Je vais terminer cette émission ce soir par une chronique. C'est la chronique du jour. C'est une chronique qui va être présentée chaque samedi à la fin de l'émission. Et puis également, je vous annonce, vous aurez également d'autres chroniques hein, qui vont venir. Mais au moment venu, vous allez pouvoir certainement vivre ces chroniques. Restez en ligne. Nous sommes là pendant 5 minutes, le temps de la chronique du jour, avant de pouvoir nous quitter ce soir. Encore une fois, vous êtes sur Africa Midi et nous sommes de retour. 3, 2, 1. Aimables auditeurs, bienvenue dans une nouvelle édition de notre chronique où nous plongeons au cœur des enjeux de notre société qui touche chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je voudrais évoquer un concept essentiel qui transcende les frontières de nos gouvernements et de nos institutions. On en a parlé tout à l'heure dans cette émission. C'est l'idée selon laquelle nos dirigeants sont d'une manière ou d'une autre aussi le reflet de notre société. C'est vrai, on pointe du doigt à nos dirigeants, mais il va falloir parfois tourner le doigt vers soi. Commençons par une question simple mais profonde. Jusqu'où sommes-nous responsables de l'état de nos affaires politiques, de l'état de notre pays? Il est souvent tentant de pointer du doigt nos dirigeants lorsque les choses ne vont pas bien. Les scandales, les décisions controversées, les politiques qui semblent loin de répondre à nos besoins, toutes ces critiques peuvent être légitimes, je vous l'accorde. Cependant, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à faire un pas en arrière et à réfléchir sur une idée peut-être être moins populaire, mais cruciale. Nos dirigeants sont à l'image du peuple. Vous savez, mes auditeurs, si nous vivons dans une société où l'injustice règne, où la corruption s'infiltre, où la discrimination persiste, où le mécontentement grandit, ne devrions-nous pas nous poser la question, nous demander dans quelle mesure nous pouvons contribuer à ces maux. Vous savez, en réalité, nos dirigeants émergent souvent des mêmes communautés que nous. Ils ont grandi dans le même environnement, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Ils ont été influencés par les mêmes médias. En réalité, ils sont issus de la société. Si l'injustice est un problème, ne devrions-nous pas regarder en nous-mêmes avant de pointer du doigt nos dirigeants? Il est temps de reconnaître notre propre rôle dans la construction de notre société. Et il est temps que nous arrivions à prendre conscience de la réalité de notre société, surtout quand on est capable, surtout, de critiquer avec véhémence. Et ça, nous le faisons. Si nous souhaitons des dirigeants justes, éthiques et responsables, nous devons incarner des valeurs dans notre quotidien. Il est facile de demander des comptes à nos représentants politiques. Mais que faisons-nous pour rendre notre communauté, notre quartier, notre lieu de travail plus juste? Il est essentiel de prendre conscience que nos actions individuelles ont un impact collectif. Le respect, l'empathie, l'équité que nous prônons doivent être reflétés dans notre comportement envers nos concitoyens. Si nous agissons de manière injuste dans notre vie quotidienne, comment pouvons-nous espérer que nos dirigeants incarnent la justice que nous réclamons tant? Voilà, mes auditeurs, c'était tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, ce sera à 20h, heure de France, 19h à Conakry, 14h du côté de New York. Ce sera l'horreur pendant cette phase de Coupe d'Afrique des Nations. Après la Coupe d'Afrique des Nations, nous reviendrons à l'horreur habituelle, 21h du côté de la France, 15h à New York et 20h à Conakry. Bonsoir.
3, 2, 1. Guinéinfo.org, un organe, une tribune vraie. Ne ratez rien de l'actualité guinéenne sur Guinée.
Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, sont influencés par la France?
Je n'ai pas parlé de tous les États. Je vous ai cité deux présidents, Ouattara et Macky Sall.
Justement, y a pas, justement, c'est pourquoi je pose la question. Il n'y a pas que Ouattara et Macky Sall dans la sous-région.
Deux présidents, c'est les deux pays qui sont le plus en avant au niveau de la défense, l'intérêt de la France-Afrique. Ça ne veut pas dire que ce sont les deux seuls.